Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On va parler d'Apple et de l'iPhone et donc un petit peu de Google et d'Android. On va aussi parler de plein de choses qui se passent du côté d'Apple en général. On a aussi des nouvelles de Instagram, on a des nouvelles de Tumblr qui ressort de nulle part, des processeurs Samsung qui disparaissent et reviennent et tout le reste de l'actu tech. C'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On est en janvier 2022, c'est le numéro 441 et je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission. Mathieu Friss, Benjamin Job, François-Fabien Plateau, Jim Profit, Pentax, Joël DKJ, Nolan, Kevin Charara, Patrick Isnot de Crypto Champion, I pretended him to be. Alors ce dernier, je crois que c'est quelqu'un qui pensait que je voulais défendre à tout prix les cryptos et qui finalement s'est rendu compte que j'étais complètement honnête, sérieux et sans aucun biais. Donc merci à toi d'être devenu patriote, cher Patrick Isnot de Crypto Champion, I pretended him to be. Tu as rétabli la vérité et je t'en suis reconnaissant. Je suis également extrêmement reconnaissant aux producteurs Raph et Stéphane Lioret. Merci à vous deux qui avez trouvé le niveau secret. Et pour les patriotes, justement, on aura un after show où j'aimerais parler un petit peu, non pas de politique, on pourrait, hein, mais j'aimerais parler du fait d'être un élu à l'ère de l'Internet. Dans l'after show, qui sera un bonus pour les auditeurs qui payent pour soutenir l'émission. Alors, ce n'est pas moi hein, qui suis un élu, encore que si je vous écoutais, je me serais présenté il y a longtemps pour le plus haut office de la République. Mais je crois que ça serait intéressant, quelques mois avant l'élection présidentielle, de parler un petit peu de comment ça doit se fonctionner. Le fait d'être un élu ou d'un candidat à l'ère d'Internet, et j'ai quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. On verra ce qu'on en dit tout à l'heure. En attendant, on a quand même un programme bien chargé, et pour m'aider à le décortiquer, j'ai d'un côté Marion qui nous rejoint comme tous les mois. Comment ça va Marion? T'es en forme?
Hello, hello. Bah oui, super. La forme, il fait beau, être en bonne compagnie, tout va bien. Très bien, ravie de vous retrouver.
Toujours ravi d'être avec toi. Et on a aussi Ulrich, que alors je t'ai jamais appelé par Discord. Est-ce que ça veut dire que ça fait si longtemps que ça que tu n'es pas venu dans l'émission? Comment ça va, Ulrich?
Ben oui, grosse panique, j'ai téléchargé Skype, je me suis connecté, j'avais tout mon passe. Mais du coup, on s'est retrouvés.
Et
moi, je voulais
bien.
Pas dire que t'es peut-être pas un élu, mais t'es peut-être l'élu. Hein.
Ah, écoute, oh. je dirais pas jusque-là. Je crois même que certains ont tendance à penser que... Patrick parle trop.
C'est moi.
Donc, je pense que ça pourrait pas être, tu vois, appliqué à des lus, on boit ses paroles. Les auditeurs sont toujours heureux de l'entendre. Alors que là, parfois, quand je parle un peu trop, on fait remarquer la chose. Bon, écoutez, on a un programme extrêmement chargé, donc on va se lancer tout de suite. Et... je voulais commencer en parlant d'Apple et de l'application numéro 1 du moment, aux États-Unis en tout cas, qui s'appelle Loquet, qui est assez maligne et que j'aimerais évoquer. Mais avant ça, je voudrais qu'on discute avec vous de Google. Parce que Google, il faut qu'on parle. Et Android dans l'eau, mais Google d'une manière générale, ça fait quelque temps que je vois, que j'entends des grondements ici et là sur le net, aux États-Unis et ailleurs, de gens qui disent Google, en fait, c'est un moteur de recherche. Et un moteur de recherche doublé sur YouTube parce qu'ils ont réussi à en refaire un moteur de recherche aussi. Et pas grand-chose d'autre. À la limite, Gmail qui a bien marché, Google Photos qui fonctionne, mais tout le reste, ça s'est planté et c'est un petit peu un one-trick pony, comme on dit. Et la dernière information en date, c'est la manière dont... la dernière tendance en date, c'est la manière dont ils traitent les Pixels, leur téléphone, même leur dernier téléphone, le Pixel 6 et 6 Pro, qui était censé être, voilà, Google est sérieux avec les téléphones, ils font les choses bien maintenant, ils y vont à fond. Eh ben, il y a eu tellement de déconvenues que les gens sont un petit peu, alors pas revenus non plus des Pixels, mais ils ont mis des semaines à livrer la mise à jour qui corrige enfin de très nombreux problèmes des téléphones. C'est pas qu'il n'y a pas de problème en face du côté d'iPhone, mais d'une manière générale, j'ai un peu l'impression que l'ambiance autour de Google et d'Android, bah, c'est un peu « ok, c'est là, mais ils ne font pas énormément d'efforts ». Et je crois que c'est un peu la déception. Ulrich, je sais pas si... Bon, toi, tu gères un certain nombre de sites de tech, donc je pense que tu suis l'ambiance générale. Et d'ailleurs,
il y a
tiens,
une affaire
je
qui
dis...
est un peu caractéristique, je trouve, de l'ambiance Google. C'est l'affaire qui oppose Sonos, donc spécialiste de l'audio, qui était le précurseur de l'audio multi-room. Et en fait, Google... En gros, les deux, Sonos a attaqué Google pour l'utilisation de 5 brevets autour de l'audio. Donc Sonos, ce n'est pas une entreprise qui achète des brevets, qui attaque à tout va et qui en a fait son business. Hein. Donc, c'est vraiment un spécialiste de l'audio qui a été précurseur dans le domaine. Et du coup, ça oppose ces deux boîtes. Et Google, en gros, a la pression d'avoir ces produits qui peuvent être interdits d'exportation et de commercialisation à cause de ce procès. Et du coup, au lieu de payer des frais licences et donc payer des royalties pour les brevets de Sonos, ils ont préféré arrêter des fonctions essentielles des produits Google Assistant, Chromecast, Nest Audio, qui est pour moi un univers quand même le plus intéressant à côté de celui d'Amazon et celui d'Apple pour la maison connectée. Ils ont enlevé des fonctions essentielles des produits Nest Audio, comme le fait de changer le volume sur toutes ces enceintes, de les grouper pour écouter du son en stéréo, enfin des trucs essentiels. Des gens qui ont acheté ces produits-là pour ces fonctions, ils ont préféré les arrêter du jour au lendemain au lieu de trouver des alternatives ou payer tout simplement les frais de licence à Sonos. Donc ils ont pris la plus mauvaise décision, et j'ai même écrit un papier sur ce sujet pour dire que Google avait pris la plus mauvaise décision. Je trouve que c'est assez caractéristique. Et je te rejoins.
Ben, juste sur ce point, sur Sonos, on ne sait pas combien ils demandent hein, pour la licence Sonos. Ça se trouve, ils demandent 14 dollars par produit et c'est pas gérable de la part de Google.
C'est pas gérable, mais en tout cas,
on ne sait pas.
Bah, tu vois, la seule solution qu'ils avaient préparée techniquement,
c'est tout supprimer.
Cette décision, c'est de tout supprimer. Voilà.
J'ai l'impression aussi que c'est un truc caractéristique qui est un peu ridicule, mais la guerre de clochers. Même la guerre de clochers est un petit peu en train de s'estomper. J'entends plus tellement de « Ah non, ton iPhone, il est pourri parce que mon Android, il est bien mieux. » J'ai l'impression que même ça, c'est en train de s'estomper parce que, d'une certaine manière, la ferveur des partisans d'Android et la haine anti-iPhone, de l'autre côté, c'était pas forcément le cas. C'était plus que les partisans d'iPhone, ils s'en foutaient de tout le reste et ils étaient contents dans leur coin. Mais... j'ai l'impression que même ça, j'en vois moins. Alors peut-être que c'est parce que je fais moins attention.
Moi, la lecture
troll,
que j'ai de cette guéguerre d'écosystème, c'est qu'en fait, les produits sont vraiment matures aujourd'hui. Il y a toujours une petite guéguerre autour des caractéristiques des produits, le taux de rafraîchissement de l'écran, le nombre de caméras à l'arrière. Mais globalement, les expériences, elles sont très similaires entre un Samsung, un Pixel et un iPhone ou un Oppo. Aujourd'hui, il n'y a
donc
plus vraiment cette
fout,
différence
quoi.
Qu'on avait avant. Oui.
Mais du coup, je me retourne vers Marion. Du coup, pour parler de Google, et je voulais juste faire une petite intro là-dessus, on n'a pas besoin d'en parler pendant une demi-heure, mais cette impression que j'ai que Google, ils ont un succès avec leur moteur de recherche, et tout le reste, c'est soit abandonné, soit il y a eu 40 versions différentes, comme les applications de messagerie sur Android, il y en a eu 60 000 et aucune n'est restée. Enfin, tous leurs projets, au-delà d'Android, ils s'arrêtent. Le dernier en date, c'est Stadia, qui ne s'est pas officiellement arrêté, mais enfin, c'est tout comme. Leur Moonshots, leur projet X, ça n'a pas donné grand-chose, ou en tout cas pas encore, mais enfin, ça commence à faire longtemps. Il y a des gens qui commencent à demander la tête de Sundar Pichai, le président de Google. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est superficiel? Ou est-ce que vraiment, il y a un problème chez Google? Ça pourrait être le titre de l'épisode, tiens. Y a-t-il un problème chez Google? Mais je ne sais pas ce que tu en penses.
Y a-t-il un pilote chez Google ?
Mais c'est ça la question. Y a-t-il un pilote chez Google ? C'est un peu ça, ouais.
Écoute, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, mais je pense que déjà, comparer Apple et Google dans leur manière de travailler, c'est un peu faire fausse route, parce qu'en fait, ils ont des cultures d'entreprise et des manières de travailler qui sont diamétralement opposées. Quand on voit Google qui va vraiment être dans l'itération, lancer des produits avec la plus stricte MVP, Minimum Viable Product, quitte à pas être complètement dans le cahier des charges qu'il faudrait, mais pour tester, itérer plus, de manière plus transparente avec la communauté, par rapport à Apple qui va fermer ses labos et garder sous verrou tous ses prototypes et compagnie. On a déjà des points de vue et des manières de faire qui sont assez différentes. Si ça marchait,
ça serait une chose. Mais chez Google, il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. Enfin,
je trouve que tu es un peu extrême. Mais en fait, le principe, c'est que quand tu es plus transparent, du coup, on voit plus les erreurs aussi.
C'est sûr. Mais quel succès ils ont eu, à part Google lui-même, le moteur de recherche qu'ils ont créé, qui était à la base de la société, YouTube qu'ils ont très bien mené comme moteur de recherche aussi et avec la monétisation, mais qu'ils ont racheté. Mais bon, c'est un succès de Google, on est d'accord. Android évidemment qu'ils ont également racheté, mais c'est un succès. Et Gmail, mais tout ça, ça a plus de 10 ans. On est d'accord.
Gmail et toute la suite de logiciels qui va avec ça.
D'accord.
Google Apps, mais
Sheet et compagnie, Google Calendar.
D'accord, on pourrait évoquer Chromebook, enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est des trucs qui...
Je sais pas d'ailleurs quel est le pourcentage d'utilisation des produits Google professionnels en entreprise. Enfin, nous, on l'utilise comme beaucoup d'entreprises, mais...
Des petites entreprises, je suis sûr. Mais d'une manière générale, on n'a pas non plus... Regarde, même si... Et c'est pas pour faire une comparaison directe du côté d'Apple...
T'as raison, en plus, Patrick.
Non, mais c'est ça. Et merci. Mais c'est ça que j'attendais que vous disiez.
Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de récent succès. Même pour les détracteurs d'Apple qui disent « Non, mais ils ne sortent plus de nouveaux trucs. Bah, » excusez-moi, mais les AirPods, ça a quand même cartonné. Voilà.
Du côté d'Apple, et on va en parler, il y a les AirPods, il y a une transition vers les services qui semble se faire assez bien. Il y a la Watch, mine de rien, qui fonctionne bien. Exactement, les Apple, les M1. Alors, c'est peut-être pas les révolutions.
C'est vraiment une remise en cause du modèle.
Bon, c'est pas pour parler d'Apple, on pourrait même parler de Microsoft qui s'est complètement réinventé avec Satya Nadella. Du côté de Google, oui, il y a eu des succès, mais ils ont tous plus de 10 ans. Et bon. Bref, peut-être.
Non, mais c'est vrai,
le moteur
c'est
de recherche
vrai,
n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas bougé, ce moteur de recherche. Ils n'ont pas pris de risque plus qu'améliorer l'algorithme, essayer de rajouter de l'algorithme comportementaliste pour améliorer les résultats de recherche, mais il n'y a pas eu de révolution.
Et même
on cherche des informations.
Après, il y a peut-être les services cloud. Moi, je ne suis pas suffisamment connaisseuse
Ils ont chez plus 10-15% du marché, ce qui est beaucoup, hein, évidemment, mais c'est Amazon qui a l'essentiel du marché.
Clairement, Amazon.
Après, il y a aussi Chrome qui est quand même un énorme.
Oui, c'est vrai. Chrome, c'est vrai. Mais là encore, Chrome a 10 ans, même plus. On parlait dans la chat room.
Il y a des technologies aussi sous-jacentes qui sont. Ouais. Mais Apple et Google participent aussi, les codecs vidéo, les trucs comme ça. Mais
alors, il y a Seji qui nous dit, et les tablettes Android en ont pas. Est-ce qu'on veut vraiment en parler?
Il y a Android 12L.
Il y a 12L
qui pourrait.
Les tablettes Android là, en 2022, on attend de voir.
Dans la chatroom, on nous parle aussi de Maps, mais là encore, c'est vieux. Bon, bref, on va pas faire toute l'émission sur Google, mais je pense que c'était intéressant.
Il y a un gros truc qui arrive. En tout cas, c'est l'OS Android dans les voitures. Dans quelques années, ce sera l'OS majoritaire qu'on trouvera pour l'infodivertissement dans les voitures. C'est une extension du système Android, mais en tout cas, ils sont en train de prendre des parts de marché chez Renault, etc.
D'accord.
Il va y avoir une bataille entre Amazon, Google et peut-être Apple et les systèmes propriétaires comme Tesla.
Que dans 5 ans, la conversation sera différente. Et je l'espère, je le souhaite, parce que Google, je les aime bien. Enfin, bon, autant qu'on peut aimer un GAFA. Mais je trouve que c'est intéressant de noter où on en est aujourd'hui. Revenons du côté d'Apple, parce qu'à la base, c'était ça mon sujet principal d'Apple. Enfin, c'était Apple. Et donc, on va parler infos un petit peu. C'est les infos qu'il fallait retenir aujourd'hui. Et la première d'entre elles, c'est Loqet. Est-ce que vous connaissez Loqet ? Vous savez ce que c'est cette app ?
Grâce à toi, oui.
C'est une
j'ai écrit ce matin grâce à toi. Enfin, je l'avais vu avant, mais j'avais... J'avoue, j'avais la flemme de s'y intéresser. Et puis, je me suis intéressé, j'ai même écrit un papier dessus.
Eh ben voilà, écoute, c'est bien. J'ai été à l'origine d'un beau papier sur Loquette. Je vais prendre le crédit. Hein. C'est grâce à moi, en fait,
un beau papier, tu me diras.
Oula, j'ai du bruit dans les oreilles. Loquette, c'est une application qui a connu un énorme succès pendant ses vacances, qu'un développeur a créé pour sa copine qui allait habiter un petit peu loin. Et en fait, c'est une application qui est toute bête, qui vous permet d'afficher sur le téléphone de quelqu'un que vous connaissez, donc votre femme, votre ami, votre mari, votre cousin, ce que vous voulez, une photo que vous avez prise. Et ça s'affiche soit en fond d'écran, soit dans un widget qui est prévu à cet effet. Alors bien sûr, il faut donner les autorisations et tout ça est très contrôlé. Mais c'est assez malin, je trouve. C'est vraiment l'idée d'envoyer, au lieu d'envoyer un petit message avec une photo sur iMessage, ça envoie juste la photo qui va s'afficher sans notification, sans rien, sur l'écran de votre ami. Et je trouve ça assez malin, c'est vraiment charmant, c'est tout mignon. Donc,
moi, j'aime bien le côté où c'est très rapide, c'est une petite photo au format carré, il n'y a pas de notification, donc on n'a pas le côté interruptif d'un message qu'on peut recevoir. Et du coup, je trouve ça assez mignon pour garder un contact tout le long de la journée avec les gens qu'on a.
C'est juste la surprise, quoi. T'envoies un petit cadeau, c'est tout à coup, tu ouvres ton téléphone et...
Ouais, oh, bonne surprise, j'espère.
Bonne surprise ou mauvaise surprise, on ne sait pas. Mais je trouve ça... C'est vraiment un truc qui est hyper malin et je suis surpris que personne n'y ait pensé avant, en fait. Donc, moi, je trouvais ça
pas mal. Est-ce que quelqu'un s'était intéressé au widget jusqu'à maintenant ? C'est ma question de façon très sérieuse.
sur iPhone, il faut avouer que ce n'est pas non plus le succès
monumental. Non, mais sur Android, ce n'est pas fou, quoi. Enfin, moi, j'en ai utilisé un grâce au pass sanitaire depuis quelques temps, mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment très...
Bon, donc voilà pour Loquette. Il y a aussi...
C'est intéressant, juste de manière un peu plus large aussi, de voir la fatigue liée aux réseaux sociaux et comment, fait, maintenant, des idées simples, bien réalisées, peuvent fonctionner et comment on essaie de restreindre peut-être le nombre d'apps qu'on utilise ou le manque de focus, de concentration qu'on peut avoir au cours de la journée. Je trouve que c'est assez symptomatique de notre société.
Complètement, et c'est un petit peu une conséquence, une réponse à cette fatigue. Et du coup, ça me donne l'occasion de mentionner un sujet que j'allais évoquer un petit peu plus tard dans l'émission, mais est-ce que vous savez quel est le dernier réseau social qui est populaire chez les jeunes dans la génération Z ?
TikTok.
Alors ça, je m'y attendais pas du tout.
TikTok, évidemment, mais...
Et c'est grâce à TikTok que le service a cartonné aussi. Ah, désolé.
Tumblr est le réseau qui ressort encore une fois de sa tombe.
Skyblog, t'as dit Skyblog,
c'est un peu ça. Mais tu sais que même les Skyblog, je ne sais plus qui avait fait une enquête sur le sujet, c'était peut-être Numérama d'ailleurs chez vous, sur les Skyblog, ou Le Monde, il y avait quelqu'un qui avait fait une enquête sur les Skyblog, c'est un petit peu la même chose. Tumblr, qui est l'ancêtre des blogs sociaux, on va dire. D'ailleurs, dans la chatroom, Fanny nous dit « Oh oui, Tumblr !» avec des petits cœurs, ce qui montre bien que la jeune génération est fan de Tumblr. Et les raisons pour lesquelles on explique ce regain d'intérêt, c'est que, comme tu le disais, Marion, c'est simple, il n'y a pas de pression sociale, le flux, il est chronologique, c'est pas un réseau où, sur Tumblr, on va avoir des marques, c'est pas un truc qui est, marketingement parlant, bankable, donc il n'y a pas de...
Marque ou influenceur.
Ou influenceur, très très peu. Et donc, en parallèle de TikTok, bien sûr, Tumblr semble connaître un certain regain d'intérêt. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que toute la terre entière ne passe son temps que sur Tumblr, mais il y a plein de gens qui ont réactivé leur compte parce qu'ils l'utilisaient quand ils étaient très jeunes, à l'époque où ils regardaient des photos de boys band ou de girls band sur Tumblr. Et 10 ans plus tard, ou 7 ou 8 ans plus tard, ils le réactivent et se rendent compte qu'il y a encore des gens qui sont actifs dessus. J'ai trouvé ça vraiment fascinant comme retour en grâce, en quelque sorte. Je m'attends bien sûr à ce que vous relanciez vos pages Tumblr du jour au lendemain, tous les deux.
Moi, j'ai jamais utilisé Tumblr, en fait.
Jamais utilisé Tumblr ?
Non. J'ai eu un compte à un moment donné, mais je crois que c'était juste pour tester.
Ah oui,
j'ai jamais été une grande utilisatrice.
T'étais déjà trop vieille à l'époque. C'était pour les jeunes, Tumblr, tu vois.
Ouch.
Je suis un peu plus âgé que toi, donc tu vois, c'est moi-même qui m'envoie une pique. tu es en train de très vite réactiver ton compte Tumblr, on t'entend taper Ulrich.
C'est pas moi.
Non, c'est Ulrich qui est en train de taper. Ouais. Oh, vite, Tumblr, vite, il faut que je prenne mon nom, Ulrich Rosier, sur Tumblr. Et puis, autre, au niveau des applications, il y a Élise, l'application qui vous aide à voter, à choisir votre candidat pour l'élection présidentielle, sur laquelle il y a un papier assez intéressant. Bah, là encore, sur Numérama, hein, c'est pas parce que Ulrich est là que je parle de Numérama. C'est un site que je consulte régulièrement. Mais c'est assez intéressant, c'est une application qui va vous poser des questions sur des mesures sans vous dire d'où elles viennent. Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre ou pas sûr ? Et à la fin, ils vont vous proposer le candidat avec lequel ils vous ont matché, en quelque sorte. Je trouve le principe vraiment intéressant. Je suis sûr que ça a été fait de différentes manières par le passé. C'est un principe vraiment intéressant. Mais le papier explique bien aussi les limites de l'application, la manière dont, avec le nombre de candidats et le nombre de questions qu'on va nous poser, bah, au final, il y a des candidats pour lesquels on n'aura eu vraiment que quelques questions très minimes. Il y a aussi le problème de plusieurs mesures présentées de différentes manières en fonction de si elles viennent de tel ou tel candidat. Bon, l'application n'est pas parfaite, mais j'ai trouvé que c'était une idée intéressante, en tout cas, pour aider les gens.
Tu as eu l'occasion de la tester ou pas ?
Non, moi, je ne l'ai pas testé moi-même depuis la Finlande. Je suis allé voter aux élections locales en Finlande il y a quelques jours. Donc, ça, c'est fait. Mais...
Non, mais j'ai eu l'occasion de la tester, Élise. Et en fait, je me suis aperçu que les résultats devenaient plutôt pertinents au-delà de 200 réponses, qui est quand même beaucoup de temps engagé. Avant, c'était un peu bizarre. Ça commençait à ressembler à quelque chose par rapport à notre bord politique et ce que je voterais. Mais il y avait des incohérences, et c'est vraiment à partir de 200 réponses que c'est devenu plus proche de ce que j'ai...
200, ça fait quand même beaucoup, c'est sûr.
Ouais, parce qu'en fait...
Ça passe vite.
Ouais, c'est vraiment
soi-même. Il y a des petits candidats qui ont finalement peu de propositions par rapport à d'autres. Et du coup, ces candidats-là, ils se retrouvent des fois à remonter naturellement parce qu'en fait, on est d'accord avec eux sur 80% des trucs, alors que foncièrement, c'est peut-être 10%, quoi.
Ouais. Bah, je crois que c'est peut-être pas... Enfin, évidemment, c'est pas que ça va vous voter pour vous et que ça va vous dire pour qui vous devez absolument voter. Mais je crois que l'intérêt d'une application comme ça, c'est justement peut-être donner un peu de visibilité sur certaines choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis, c'est une suggestion, tu vois, c'est une suggestion de présentation. C'est pas comme ça que tu vas forcément voter. Mais je trouve que, justement, redynamiser un petit peu le civisme des gens au niveau des élections, c'est peut-être tout est bon pour faire ça, donc je suis
plutôt pareil. Oui, en plus tu verras que chaque proposition tu peux cliquer dessus et tu as quand même pas mal de détails. Ça manque pour moi, d'un côté c'est connecté à un article de média de confiance pour pouvoir avoir plus de précision, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça assez pertinent. Dommage pour les erreurs dans le développement, parce que du coup ça touche un peu la légitimité de l'app. C'est un peu dommage qu'ils aient fait quand même beaucoup d'erreurs un peu stupides, hein, faut le dire.
Ouais. Mais c'est un petit groupe, hein. C'est un petit groupe de bénévoles, si je me trompe pas, si je me souviens bien.
Oui. C'est deux étudiants, je crois, ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Donc je crois que effectivement il y a eu des erreurs, il y avait des problèmes de si tout le monde avait le même score, ils présentaient un parti en premier plutôt qu'un autre.
En vrai, je crois que ça a été développé avec un petit framework qui permet de développer à la fois Android et iPhone. C'est des frameworks qui demandent peu de connaissances en développement, mais qui peuvent amener à faire des erreurs comme ça.
Bon, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Mais parlons maintenant un petit peu plus d'Apple. Mais bien sûr. il faut m'interrompre. Il faut juste me dire, Patrick, tais-toi. Maintenant, j'ai un truc à dire.
Oui, mais bon, je ne veux pas interrompre en plein milieu d'une phrase. Juste quand même, moi, j'avoue, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vite vu quand même qu'il y avait des incohérences et des problématiques sur la fiabilité des résultats. Je pense que là où En fait, je suis d'accord sur l'intérêt d'Élise. Je pense que ça peut rendre la politique un peu plus ludique, un peu plus digeste et accessible au plus grand nombre. Et rien que pour ça, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire avec et à creuser. Et je pense que j'aimerais bien aussi que certaines personnes se posent des questions sur comment rendre leur programme un peu plus lisible, parce qu'il y a quand même une vraie problématique là-dessus.
La spécialiste de l'interface, là, le cœur qui saigne un petit peu, on le sent.
Non, mais ce n'est pas que l'interface, mais ne serait-ce que comment tu formules tes propositions et les rendre compréhensibles du grand public. Enfin, je veux dire, c'est quand même le rôle d'un politique. Je ne veux pas voter pour quelqu'un dont je ne comprends pas les idées, hein, personnellement.
Et d'ailleurs, voilà. C'est très marrant parce que du coup... Désolé, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Mais avec cette application, on se rend vraiment compte de ceux qui ont un vrai... je trouve programme politique comme par exemple Anne Hidalgo, etc. De ceux qui en fait font beaucoup de déclarations, de rebond, enfin ils rebondissent
sur la
qualité, de punchline, parce qu'on les retrouve dans l'application en tant que proposition, quoi. Et donc, ouais. C'est assez marrant, quoi.
Ça tient pas debout, quoi. Tu sais, mais ok, tu veux faire ça, très bien, tu veux dépenser temps pour ça, mais en fait, tu le prends où l'argent, en fait? Donc il y a des choses. Donc déjà, moi j'ai eu plein de frustrations avec cette application, mais des bonnes frustrations, c'est-à-dire j'ai envie d'en savoir plus sur les propositions. Je suis frustrée parce que même en cliquant plus, franchement, il y a certaines propositions qui sont super vagues et qui sont très difficiles à comprendre. Je suis très frustrée parce que si par exemple je dis pas oui ou non pour une proposition, mais en fait je veux creuser plus pour pouvoir prendre ma décision, je peux pas. Du moment où je skip, je ne peux pas revoter plus tard sur ces propositions là. Pareil, la manière dont les scores sont affichés, franchement, il y a de quoi largement améliorer. Je veux dire, mettre 100% quand je suis d'accord avec une proposition de quelqu'un, juste parce que quand j'ai vu plus de propositions de l'autre et que j'ai dit un non, ça marche moins bien, ça marche pas, quoi. Pareil, la fiabilité, l'indice de fiabilité, il est invisible. Je veux dire, j'ai dû avoir Jérôme qui me disait qu'il y avait un indice de fiabilité pour aller le chercher, quoi.
Ouais.
Donc, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie d'information, il y a des choses à faire. Bon, évidemment, il y a les petits problèmes d'ingénieur. Après, je trouve qu'on a tiré très vite sur cette application parce que, bah, évidemment, ça parle de politique.
Quand on t'entend, on a l'impression que ça t'a pas... Enfin, t'es pas la dernière à tirer dessus quand même. Là, ça fait...
Oui, il y a plein de choses qui pourraient être optimisées. Ouais. Mais le premier but qui est de déclencher de la curiosité sur le programme, les différents programmes présidentiels, ça marche. C'est-à-dire que je l'ai gardé sur mon téléphone avec les réserves que j'ai, mais que du coup, j'en suis consciente. Mais du coup, ça me donne envie d'aller chercher plus loin sur les différentes propositions des différents candidats, parce que j'ai vu que finalement, il y avait des propositions sur des candidats que je ne connaissais même pas qui m'intéressaient. Ça me donne envie d'aller creuser plus loin. Donc, je trouve que
rien
que
pour ça... Donc, le but est un peu atteint, quoi.
Exactement, c'est valide. Après, je trouve qu'on a tiré très facilement sur cette application, sur des problématiques de confidentialité, etc. Je veux dire, dans l'application, à aucun moment, tu as besoin de créer un compte, de te connecter ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de donner pour qui tu as voté aux précédentes élections présidentielles. Les seules choses sur lesquelles ça peut collecter, c'est en effet sur quelle proposition tu swipes et donner une tendance.
Mais comme des sondages, quoi.
Voilà, exactement. Enfin, il faut arrêter de s'emballer pour pas grand-chose. Donc, je trouve qu'on a vraiment un peu accroché cette application au pilori, alors qu'en fait, la démarche derrière, elle est vraiment intéressante, avec évidemment toutes les réserves que j'ai déjà moi-même.
Et puis, on rappelle que c'est une toute petite équipe.
Il y a 5 ans, avec des sites internet qui faisaient la même chose.
Il y avait un peu de ça, je crois. Ouais. Mais là, ça a l'air un petit peu mieux fait. Peut-être Élise 2027. Élise 2027, ça sera un petit peu plus réussi.
Et il manque le parti animaliste pour terminer. Je suis désolé, pour moi c'est quand même.
Je sais que c'est l'un de tes chevaux de bataille. donc,
il n'y a pas Hélène Thuy en proposition et je trouve ça dommage, alors que ça parle des animaux par contre de la cause animale. Il y a pas mal de petites cartes.
Allez, quelques infos sur les projets d'Apple. L'iPhone 14 aurait sans doute, c'est encore un article Numérama, j'ai pas fait exprès, aurait sans doute non plus l'encoche des iPhones classiques, la petite encoche, le petit front là, mais 2 poinçons, un oblong et un petit rond à côté. Moi, je me dis, autant en faire un seul. C'est super moche d'en avoir 2, un rond et un petit peu long. Je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Bon, bref, ça serait l'iPhone 14. Pour l'iPad Pro, le prochain iPad Pro, ils seraient en train de tester un logo Apple en vert pour pouvoir faire passer le MagSafe. Donc, ça serait le logo Apple derrière qui serait plus en métal, mais en vert pour faire passer les ondes de rechargement. On a aussi des infos un petit peu plus intéressantes sur ce casque de réalité mixée dont on n'en finit plus d'entendre des rumeurs. La dernière en date est que, à cause de surchauffe et de problèmes de processeur, il serait en train de penser à décaler sa sortie, ou en tout cas son annonce, de cette année à l'année prochaine, donc 2023. Et les rumeurs secondaires disent qu'il coûterait plus de 2 000 $ et qu'il aurait un processeur M1 Pro ou équivalent, ce qui n'est pas hyper surprenant. Mais donc, il aurait un M1 Pro avec, en fait, deux processeurs à l'intérieur et des lentilles de vue, enfin, des verres de vue interchangeables sur le casque. Bon, c'est encore le casque
de réalité. C'est marrant parce qu'on est en train de décrire un produit réservé aux développeurs, là, mais
ah bah,
j'ai l'impression que c'est un produit pour démocratiser voilà, un niveau... nouvel usage, ça ressemble à ce qu'avait fait Google avec les Google Glass et puis beaucoup d'autres entreprises derrière. Bon, écoute, moi je suis super curieux, mais on...
comme tout le monde,
sceptique,
je pense.
Mais curieux.
Mais donc la grosse nouvelle, c'est que ça serait pas pour cette année. Oui, Marion, pardon.
J'ai hâte de voir comment Apple va présenter ce nouveau produit, parce que jusqu'ici, c'est quand même très, très difficile de faire comprendre les cas d'usage possibles pour ce type d'appareil au-delà du gaming ou de certains usages professionnels. Et du coup, ça n'a pas encore conquis potentiellement une part de marché significante, quoi.
Moi, je pense qu'ils vont le présenter comme, pour la première fois de leur vie, le produit pas fini. Généralement, ils lancent le produit quand il est vraiment prêt pour la consommation du grand public. Et là, je pense qu'ils vont dire, là, c'est un produit pour développeurs. Ça fait déjà, je ne sais plus combien, 5 ans qu'on a ARKit dans nos écosystèmes et que les développeurs commencent à travailler et à se familiariser avec ce type d'univers. Et bien là, c'est une étape encore, un produit qui est très cher pour le développement, qui va servir à tel et tel et tel truc, mais ce n'est pas un truc qu'on va vendre au grand public. Et ça sera la première fois de leur histoire qu'ils feront ça. Ils vont dire, c'est une telle évolution dans l'interface homme-machine, c'est révolutionnaire. Et, et donc, il faut qu'on prenne des pas un petit peu plus mesurés que ce qu'on fait d'habitude. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils vont le présenter.
C'est assez logique, vu les rumeurs qui disent que ça serait présenté à une WWDC, puisque c'est une conférence développeur et pas consommateur.
Ouais, en plus, ouais. Bon, ils présentent beaucoup de choses en premier en WWDC. Puis
il faut des apps et des jeux. Hein, donc...
Bah ouais. Oui, c'est sûr. Là, c'est une nouvelle catégorie de produits. Et Fortnite, d'ailleurs, revient sur les iPhones. Mais pas sur l'App Store, évidemment, on ne va pas refaire tout le feuilleton, mais pas sur l'App Store, il revient avec du streaming par un site web, avec la puissance de NVIDIA GeForce Now, le service de streaming de NVIDIA. Et donc, on pourra jouer enfin à Fortnite sur iPhone et iPad par streaming uniquement. Bon, il faudra voir à quoi ressemble l'expérience utilisateur. Mais encore plus intéressant que ça, pour les questions d'App Store et de sortie d'App Store, il y a eu 2 décisions de justice dans le monde qui ont remis en question la commission d'Apple pour les apps qui vendent des produits numériques par l'App Store en Corée et aux Pays-Bas. Et dans le cadre de la décision des Pays-Bas, c'est très spécifique, hein, c'est pour les applications de rencontres uniquement aux Pays-Bas sur l'App Store. Eh bien, Apple a mis à jour ses conditions d'utilisation pour les développeurs en disant, dans ces cas-là, sur l'App Store des Pays-Bas, il faudra soumettre un nouveau binaire, vous ne bénéficiez... Bref, le truc important, c'est qu'ils vont quand même collecter une commission sur les ventes qui seront faites pour les applications en dehors de l'App Store, les applications qui n'utiliseront pas le système de paiement d'Apple. au-delà du fait qu'il précise bien, alors vous êtes, c'est vous qui voyez ensuite vos relations avec vos clients. S'il y a des problèmes de remboursement, nous, on ne veut pas en entendre parler. S'il y a des problèmes de tel et tel truc, ce n'est pas notre problème, évidemment, parce que nous, on n'a pas d'infos sur vos ventes, si vous ne passez pas par le système d'Apple. OK, ça, c'est entendu et c'était attendu. Mais en plus de ça, ils ont déclaré qu'ils prendraient quand même une commission sans donner le chiffre de la commission. Alors, qu'ils prennent une commission quand même, on peut le comprendre, hein, ils ont quand même un écosystème et du stockage et un App Store, enfin tout ça. Bref, une commission, on pourrait le comprendre. Sauf que Google, dans le cadre de l'affaire coréenne, a annoncé qu'ils prendraient aussi une commission et que leur commission serait la même que si on faisait un achat par l'App Store, réduite de 4%. Donc la même somme, ce n'est pas toujours exactement 30%, mais la même somme, moins 4%. Donc on économise en quelque sorte pour les développeurs 4% sur la commission, pour Google en Corée, si on passe par notre propre moyen de paiement. Et vu tous les problèmes que ça peut poser de remboursement, de problèmes avec les clients, etc., évidemment, 4%, ça ne vaut pas le coup. On peut imaginer que Apple suivra la même tendance. Donc, ils prendront 26% au lieu de 30 ou alors 11% au lieu de 15. Enfin, dans tous les cas, 4%, je pense qu'il y a très, très, très peu de développeurs qui seront intéressés par l'idée d'économiser 4% et de se mettre sur la tête tous les problèmes que ça amène de devoir gérer ses clients tout seul, juste pour 4%, quoi. C'est presque aller à l'encontre du jugement, on parle du jugement californien, là, qui disait il faut que les gens puissent utiliser des moyens de paiement tiers. 4%, moi, je pense que le juge, s'il y avait un nouveau procès, dirait « Non, mais 4%, ça va pas. »
On est d'accord que c'est le début. Et moi, je serais content demain, par exemple, de pouvoir avoir le choix entre payé par Apple ou payé par Orange ou payé... Enfin, il y a aussi des tiers de confiance aujourd'hui qu'on utilise dans nos paiements au quotidien comme PayPal, comme la facture opérateur, etc. qui derrière peuvent gommer ce côté confiance et prise de risque.
C'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Le truc, c'est qu'Apple, évidemment, n'a aucun intérêt à laisser ça passer. Et c'est même plus qu'ils traînent des pieds, là. C'est
le problème, c'est
tout ce qu'ils peuvent pour le rendre... Ils disent, ouais, techniquement, on laisse les gens utiliser un autre moyen de paiement. Mais enfin, dans la pratique, je crois que personne ne va le faire sous ces conditions. 4%, c'est comme on dit dans la chatroom, c'est la mauvaise foi ultime. Et ce n'est pas surprenant. Mais en même temps, c'est un petit peu, je ne sais pas, je trouve ça...
On verra, c'est que le début.
C'est que le début, ouais. Marion, tu penses que c'est les 4%, c'est honteux ou c'est... Enfin, c'est normal et honteux à la fois, ça peut être les deux, j'imagine.
C'est ça, c'est-à-dire que d'un point de vue... Ça dépend de quel point de vue tu regardes ça. Du point de vue d'Apple, bah évidemment, ils veulent baisser le moins possible. Du côté des développeurs, le coût que ça représente, comme tu disais, de gérer les annulations, les remboursements et tout, en fait, ça ne vaut pas le coup du tout. Voilà, pour avoir testé, m'être plongé dans les principes d'abonnement et de remboursement dernièrement pour mon boulot, je peux te dire que clairement, on est bien content que ça soit géré par Apple, hein.
Ouais, on est d'accord. Et donc, ce qui me surprend, ou ça devrait pas, mais ce qui me choque un peu, c'est que pour moi, vous savez, on parle de fraude fiscale ou d'évasion fiscale d'optimisation fiscale. En fait, l'optimisation fiscale, c'est juste suivre les règles à la lettre. Et puis, bon, même si c'est pas hyper moral, on va le faire quand même parce qu'on suit les règles. Là, c'est exactement ça. Et bon, Apple, ils sont pas étrangers à l'optimisation fiscale aussi, mais c'est vraiment genre, ah, vous avez dit qu'on doit, y a des problèmes. 30%, c'est trop lourd pour les développeurs, donc on doit les laisser utiliser un autre moyen de paiement. Bah, OK, on va leur laisser utiliser un autre moyen de paiement, mais on va quand même prendre 30%. Parce qu'en pratique, c'est ça. C'est que les 26% plus les prises de tête pour tout le reste, c'est équivalent à 30%, on va dire, même peut-être plus. Donc, en pratique, ils prennent toujours à peu près la même somme. C'est le même poids sur les développeurs. Et c'est tellement on suit la lettre du truc, mais pas son esprit. Si j'étais la juge, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais si j'étais la juge et que je reprécise, hein, ça c'est aux Pays-Bas qu'Apple a appliqué cette règle, mais si Apple applique les mêmes règles suite à la fin de l'appel de la chose, et qu'ils appliquent les mêmes règles, moi si je suis la juge, c'est amende directe et qu'on reprécise.
Oui, mais ça va
sûrement
être retoqué.
Patrick le justicier.
Ouais. Mais parce que, tu sais, c'est vraiment...
Non, mais moi, c'est vrai que ça ressemble à du foutage de gueule. Même.
C'est vraiment c'est clair, du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et je suis complètement réceptif à l'argument que Apple doit pouvoir protéger son business model sur l'App Store et dire qu'ils ne doivent pas accepter les paiements tiers. Je pense qu'il y a un vrai argument logique et cohérent à faire là-dedans. Et moi, je sais pas de quel côté je tomberais, mais il y a un vrai argument pour ça, et je peux tout à fait le comprendre. Mais à partir du moment où le jugement a été rendu, bah, c'est terminé. Enfin bon, il y a un appel, etc., mais aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Et à partir du moment où le jugement a été rendu, y a un jugement qui a été rendu. Et je précise encore une dernière fois, c'est Google en Corée qui a appliqué les 4% de réduction. Apple, on ne sait pas encore le montant de leur commission. Ça se trouve, ils vont le faire avec un truc très raisonnable, genre on enlève 15%, c'est la moitié de la commission, ou c'est 10% ou ce que c'est. Ça me paraît peu probable, mais on verra. Un truc hyper important aussi que je voulais vous dire, qu'il ne faut surtout pas rater dans l'émission, c'est que les auditeurs peuvent soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Ah ah ! Vous pensiez pouvoir passer ce petit moment promo, mais je vous ai eu en le déguisant un petit peu. La mauvaise foi du côté du rendez-vous tech, on n'y est pas étranger non plus. Et maintenant que je vous ai attrapé, que je vous ai capturé, eh bien, je peux vous dire que le rendez-vous tech existe grâce notamment au soutien de ses auditeurs, et que c'est de cette manière que j'ai lancé l'émission, je me suis lancé en professionnel, et que c'est encore aujourd'hui le revenu principal de l'émission, et que c'est vous, là, qui êtes dans le métro, dans la voiture, en train de faire le ménage, vous qui pouvez choisir de soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Si vous faites ce choix, bah, évidemment, vous avez des bonus incroyables comme les timecodes dans les notes, vous avez des bonus en fin d'émission, et puis des éditos régulièrement et plein de bonus cool, mais surtout, vous avez le plaisir de savoir que vous soutenez une émission que j'espère vous appréciez. Et ça, messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix minime, genre à partir de 1 euro, vous pouvez soutenir l'émission. Donc ça, votre fierté, votre soutien, votre courage, oui, je le dis, votre courage, il a un prix, c'est 1 euro par semaine pour soutenir le Rendez-vous Tech, le podcast que vous appréciez. Je vous remercie tous et toutes de soutenir cette émission.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on pensait en avoir fini avec Facebook, avec Instagram, tout ça. Ça a fait tellement de scandales que, évidemment, personne ne va continuer à utiliser ces applications. Vous savez quelle est l'application la plus installée cette dernière année dans le monde entre Apple et Google ? C'est pas TikTok.
Instagram ?
C'est Instagram, exactement.
Chapeau quand même. Hein.
C'est dingue, hein ? C'est dingue.
C'est
bah, ils ont fait le truc, enfin, je veux dire, en lançant les stories. Puis, bah, regardez aujourd'hui sur Instagram, il y a 5 produits différents dessus ou 4 produits différents. J'ai arrêté de les compter. Hein.
Ouais, ouais, il y a les photos classiques, les stories, les reels, les vidéos. Enfin, il y a mille choses différentes.
Les trucs, on est d'accord. Moi, je
me
suis
boutiques,
perdu maintenant.
Tout ce qui est pour le shopping.
Donc bon, c'était un truc intéressant à noter. Oui, bah Instagram, on n'en a pas fini. Est-ce que vous connaissez justement le projet Buy Nothing ? On n'achète rien. Est-ce que vous connaissez ce projet ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout non plus.
Alors, c'est un projet qui est né en 2013 sur Facebook, qui est, alors un projet, disons que c'est un groupe de gens qui s'est dit, bon, bah, on va arrêter d'acheter des choses. Et donc, on va créer un groupe où les gens peuvent donner ce dont ils n'ont plus besoin à leurs voisins, à leurs amis, etc. Et c'est un truc qui a grossi sous ce nom Buy Nothing et qui s'est répandu sur Facebook comme une traînée de poudre. Il y a aujourd'hui 7000 communautés Buy Nothing sur Facebook qui s'étendent dans le monde entier. Et donc, c'est un truc de partage, enfin d'échange, ou même pas d'échange. Oui,
c'est comme Give, non ?
Un petit peu, ouais, un petit peu. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va se dire, ah ben voilà, Facebook, c'est très bien, ça a permis, enfin c'est très bien, ça a au moins permis de faire ça, c'est un moyen de diffuser ce genre de choses, etc. Effectivement, sauf que là où ça devient vraiment intéressant, c'est pas juste pour parler de Buy Nothing que je vous évoque ça aujourd'hui, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que depuis l'année dernière, les deux personnes à l'origine du projet, enfin, un groupe à l'origine du projet, a essayé d'en faire quelque chose d'indépendant. Ils ont un site et une app, et ils essayent de se détacher de Facebook pour en faire un truc qui fonctionne indépendamment. Eh bien, c'est hyper difficile. Et ce n'est pas si surprenant, parce que Facebook amène toute une infrastructure, un moyen de communiquer, un accès à énormément de monde. Mais quand on essaye de s'en détacher, eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, ils ont d'autres problèmes. Hein. Ils ont c'est un truc compliqué de lancer une plateforme d'échange ou même de dons de ce type. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à quel point le fait de vouloir se détacher de Facebook, eh bien, en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que les 7000 groupes indépendants là, de Buy Nothing, comment on fait pour leur dire « Ah bah venez sur l'app » et puis les gens qui passent leur vie sur Facebook, ils n'ont pas envie d'aller sur une autre plateforme, etc., etc. C'est hyper compliqué. Donc, c'est encore une fois un exemple de pourquoi, à quel point Facebook est sticky. Facebook, il est difficile de s'en détacher, même pour des projets comme ceux-là qui connaissent un grand succès et qui sont en plus, j'aurais même tendance à dire qu'ils sont sur une voix qui est presque en opposition avec Facebook, philosophiquement, j'ai l'impression. Donc voilà, Buy Nothing, c'est pas forcément le plus gros succès de l'histoire, malheureusement.
Mais c'est hyper intéressant de voir combien c'est complexe de construire une communauté, parce qu'en fait, Buy Nothing, en fait, ça ne compte que sur la communauté. Et donc, la problématique de l'expérience d'une communauté, elle est super complexe. Regarde Facebook, Reddit, ce genre de choses. Je dis pas Twitter parce que c'est pas exactement la même chose. Et donc, ouais, leur problème, c'est pas de permettre à des gens d'échanger, c'est juste déjà de commencer à avoir cette communauté.
C'est de construire la communauté, la plateforme. Ouais. Pardon, vas-y, Ulrich.
Moi, je vois l'autre difficulté de ce type de projet, c'est de construire quelque chose basé sur une plateforme finalement fermé. Et c'est vrai que c'est des vraies questions qu'on se pose en tant que média, hein. De la distribution de son contenu. Quand on dépend, par exemple, à 90% de TikTok ou de Snapchat ou de Instagram pour toucher sa communauté, on est dépendant de toutes les prises de décision dans lesquelles on n'a aucun mot à dire sur l'algorithme d'apparition de contenu, la popularité d'une application. Donc derrière, on peut faire du transfert de communautés, essayer de développer plusieurs communautés, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour développer du contenu. Enfin, moi, j'ai créé des médias qui sont multi-canaux, mais par exemple, je sais que bon, quand on a une chaîne YouTube ou un Twitch, c'est très difficile des fois d'essayer de partager l'énergie entre plusieurs canaux et de se dire, bon, je suis dépendant de cette plateforme. YouTube, ah oui, typiquement. Cool. C'est un risque que je me dis, qu'est-ce que ça va valoir YouTube dans 5 à 10 ans si Google continue à échouer autant à faire évoluer leurs produits. Enfin, c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, ils ont essayé plein de trucs.
À la merci de leurs règles aussi. Hein. C'est toujours
les stories, c'est une horreur sur YouTube. Hein. Je veux dire, ils ont raté pour le moment.
Les shorts,
Les shorts, pardon.
Ouais.
Enfin, vous avez raison. Moi, ça me c'est quelque chose qu'à la fois, je trouve hyper intéressant parce que c'est un accélérateur, mais de l'autre côté, C'est un risque très important aussi.
C'est vraiment, comment dire, un bon exemple, parce que c'est un mouvement qui a connu un grand succès sur une plateforme, et comment l'exporter ensuite. Je trouve que ce que disait Marion était très juste. Le succès de Facebook, c'est pas le contenu, c'est la plateforme et la connexion entre les gens. Ce qui est leur force, c'est le graphe social. Et du coup, ton idée, elle peut être super bonne. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que t'as pas le graphe social, et c'est ce à quoi est confronté aujourd'hui Buy Nothing. Alors, peut-être qu'ils vont réussir à construire quelque chose, parce que c'est pas impossible non plus, mais c'est vraiment notable cette difficulté de se sortir de l'écosystème existant. Bon, on dit beaucoup de mal de Google et Amazon et Meta et tout ça. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être un petit peu contrebalancer la chose en disant un peu de bien. Et donc, j'ai noté cet article du Wall Street Journal où ils expliquent qu'il y a quatre sociétés de la tech, quatre des GAFAM, Alphabet, donc Google, Amazon, Meta, donc Facebook, et Microsoft, donc Apple n'est pas dans le lot, qui ont posé tellement de fibres optiques sur des câbles sous-marins intercontinentaux qu'ils ont augmenté la capacité du réseau de 41%. Rien qu'en 2020, en réduisant les coûts de communication. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est hyper intéressant. Effectivement, c'était le résumé sur TechMeme, qui est l'une des sources que j'utilise beaucoup. TechMeme qui titrait comme ça. Et puis, je me suis allé lire l'article. Et ce que j'y ai découvert, c'est un petit peu différent. L'angle, en fait, que prend l'article, c'est ces quatre géants de la tech ont aujourd'hui des investissements dans 66% des câbles transatlantiques, transpacifiques, enfin des câbles sous-marins, 66%. Alors, c'est des co-investissements avec des sociétés de télécom, etc. Et eux n'en tirent pas de profit direct. Mais 66%, il y a 10 ans, c'était 10%. Donc, ça veut dire que en 10 ans, ils ont créé un autre domaine en plus pour lequel on doit s'inquiéter de l'omniprésence des géants de la tech.
C'est celui... Ils n'ont pas le choix. Hein.
Bien sûr, tu as raison, mais...
Ces histoires de peering, etc. Enfin, je veux dire, les opérateurs, ils peuvent leur fermer le tuyau. Donc, autant construire le tuyau avec les opérateurs. Après, c'est presque un rôle de l'État, là, dans ce cas de construction, c'est de la géopolitique.
Bien sûr, ça coûte tellement cher que c'est des investissements qui ne seraient pas vraiment tenables. Et puis surtout, c'est des investissements qui sont internationaux, donc c'est compliqué à mettre en route. Mais il y a une comparaison qui est intéressante dans l'article. Justement, ils disent, OK, les géants de la tech ont... Alors encore, c'est une part, hein, mais une part de l'infrastructure réseau. C'est un petit peu comme si Amazon était le propriétaire du réseau routier aux États-Unis, tu vois. C'est genre, comment vous dire, ça pourrait peut-être poser un problème à un moment. Évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils sont mis à faire ça. Et l'une des raisons, c'est que ça n'allait pas assez vite pour suivre la capacité, les besoins de capacité croissants du net. Et donc, en gros, c'était un peu bon, ben, we'll do it ourselves, on va le faire nous-mêmes, fuck tout le monde, on va mettre des câbles nous-mêmes parce qu'on a un besoin pour notre business. Et tout le monde en bénéficie, c'est pas faux ce que je disais au début. Mais c'est quand même un petit point où je me suis dit, ah ouais, 66% quand même, ils ont le doigt dans 66% des câbles sous-marins. Entre parenthèses, c'est les câbles sous-marins, c'est par là que passe tout le trafic du monde, hein, ou genre 90% du trafic du monde. Donc c'est important.
Non, mais c'est clair qu'il y a de quoi faire grincer les dents quand même. Hein.
On est d'accord. Alors, vous avez suivi cette histoire incroyable de Samsung qui devait annoncer son processeur. Vous avez vu ça ou pas?
C'est génial.
Ils l'ont fait ce matin.
Ils l'ont fait,
oui,
enfin.
C'est génial. C'est génial.
Mais, alors, ce qui s'est passé la semaine dernière...
C'est un peu bizarre, mais peut-être quelqu'un a oublié le rappel. Hein,
mais c'est exactement ça. Samsung devait avoir une conférence en ligne, hein, streamée, pour annoncer leur nouveau processeur Exynos, qui est un processeur qu'ils conçoivent eux-mêmes, le Exynos 2200, qui est un processeur mobile qui était assez important, qui est assez important, parce qu'il inclut un coprocesseur graphique développé par AMD, qui est un spécialiste des coprocesseurs graphiques sur les ordinateurs traditionnels, et qui donc devait avoir des capacités capacité graphique bien supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les appareils mobiles. Et donc, selon le marketing de Samsung, ça devait amener la puissance des graphismes des joueurs traditionnels sur mobile. Bon, OK. Là, l'annonce était censée arriver le 11 janvier. Et le 11 janvier, donc, la presse tech se réveille, va sur les sites de Samsung, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, et il n'y a rien. Le site de Samsung, la section communiqué de presse, il n'y a rien. Il n'y a juste pas de conférence, il n'y a pas d'explication, il y a juste la conférence qui est oubliée. Et il n'y a eu aucune explication à ça. Quelques heures après, le lendemain, Samsung a dit « Oh, on va faire une annonce un peu plus tard. » Mais genre, le jour même, c'était... Et ils l'avaient annoncé, la conférence. Ils avaient dit « Ah, tel jour, oui. Rejoignez-nous pour... » Et il n'y avait rien. Et c'est donc c'est le grand mystère, parce que ce n'est pas un truc...
Ça fait 3 ans qu'ils ont annoncé ce partenariat avec AMD, quoi. 2-3 ans.
Ouais.
2019.
C'était un truc important. Et on n'a pas eu d'explication, hein, Ulrich. On ne sait pas pourquoi. Genre, tu disais que quelqu'un a pas vu son reminder. Mais...
Non, mais c'est compliqué parce que j'imagine en plus AMD, c'est un géant, et Samsung aussi. Des Américains d'un côté, des Coréens de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, honnêtement, j'ai lu le communiqué de presse ce matin. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Il ne parle pas de perf. Il dit juste architecture RDNA 2, voilà, qui est l'architecture utilisée sur les processeurs récents Ryzen d'AMD ou sur les consoles next-gen. Donc, jusque-là, pas nouveau. Compatible ray tracing, mais il avait déjà dit. Le ray tracing sur mobile, ça c'est intéressant. Le SoC n'a rien à voir. Après, bon, ça reste un CPU avec des ARM avec une puce NPU pour l'intelligence artificielle, une puce ISP pour la photo et la vidéo. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est juste un communiqué de presse pour dire bon, allez.
Classique, ouais, c'est ça.
Et je pense qu'ils réservent tout pour le Galaxy S22 en février, mais bon, du coup, c'est... voilà quoi.
Il n'y avait pas besoin de teasing dans ce cas-là, quoi.
Il n'y avait pas besoin de teasing, tu dis ?
Oui, pour annoncer ça, excuse-moi, déjà pour rater sa conférence et puis ensuite pour annoncer.
Mais après, il y avait un petit détail dans le communiqué de presse. À la fin, la dernière phrase du communiqué de presse, c'est « Nous vous confirmons que ce processeur est passé en mass production, comme production de masse. Ah. » Donc, ça se trouve, il y avait peut-être un retard potentiel qui fait que le Galaxy S22 qui existe en Qualcomm Snapdragon d'un côté et en Exynos de l'autre, historiquement, mais ça se trouve, il aurait pu exister qu'en 100% Snapdragon. D'ailleurs, il y avait une rumeur qui là il y a 3 semaines, donc ça se trouve il y a eu un truc,
un hic de dernière minute, ouais.
Complexité dans la production du processeur.
Peut-être
qu'est-ce que nous dit Moriarty pour l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de conférence, c'est parce que sûrement la personne qui organisait avait aquaponé.
Avec quoi?
Avec aquaponé.
Aquaponé, c'est faire du poney dans l'eau. Je connais pas.
Ah, tu connais pas l'aquaponé?
Non.
Ouais, c'est exactement ça, c'est du poney dans l'eau.
D'accord, écoute, ça a l'air extrêmement intéressant.
Essaye, Patrick, si tu essaies, je veux une vidéo.
C'est très populaire, hein.
Aquaponé, franchement, j'hésite à faire une recherche sur le sujet parce que ça sort le troll.
Alors,
là,
fais
quand
gaffe.
Même.
Non, c'est pas vrai.
Je suis quand même sur Twitch, là.
Non, c'est si pas un troll, je crois que ça existe vraiment. Mais...
D'accord, très bien. Je vais pas le googler en direct sur Twitch, je voudrais pas me faire
bannir. Mettons en navigation privé, on sait jamais.
C'est vrai, ok. Deux dernières petites choses à mentionner. D'abord, l'Ukraine a été victime d'une cyberattaque la semaine dernière, si je ne m'abuse, que je voulais mentionner parce que c'était une attaque sur l'infrastructure du pays qui a été, selon toute vraisemblance, d'origine russe. C'est pas très très surprenant, étant donné la géopolitique en ce moment de ce côté de la planète. On sait qu'il y a des troupes militaires qui seraient visiblement prêtes à entrer en action même au-delà des frontières. C'est notable parce que je suis sûr que c'est pas la première fois, mais c'est un moment important où l'attaque sur l'infrastructure du net, c'était des organisations pas des organisations gouvernementales, des administrations qui ont été prises pour cible, donc est couplée à peut-être une action militaire. On peut imaginer que c'était une sorte de répétition. et que si jamais ça se produit dans les prochains jours, semaines, mois, cette action militaire russe contre l'Ukraine, eh ben, elle soit couplée à une cyberattaque. Et ça serait, je me trompe sûrement, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu de cette nature jusqu'ici, ou en tout cas peut-être pas aussi proche de nous.
Après, il y a manière. Toujours le piratage, l'accès à Internet, des choses comme ça. L'accès
bien sûr. Enfin. Mais une attaque militaire couplée à une attaque sur les infrastructures du pays, ouais. J'ai pas le souvenir, parce qu'il y a tellement peu d'attaques militaires ces dernières années de ce type-là, mais bon. Je voulais
c'est
le noter.
Une sacrée démonstration de force, quoi.
Bon, il y aurait tout un truc à dire sur la manière dont le gouvernement russe gère les choses en ce moment. Mais et on en parle régulièrement. Le dernier truc, c'est un petit peu plus pour sourire. Je sais qu'il y a peut-être dans l'audience du Rendez-vous Tech certaines personnes qui aiment bien se moquer des crypto-bros et de leurs initiatives parfois un petit peu trop enthousiastes. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une nouvelle raison de vous moquer de cet univers qui pourtant a un potentiel, je continue à le dire, même s'ils ont certains errements parfois. Un DAO, Decentralized Autonomous Organizations, donc organisation décentralisée, a été créé pour acheter un livre assez rare de Jodorowsky, le réalisateur, qui avait compilé des documents, enfin des sources de l'inspiration sur Dune, à un moment où il voulait en faire une version à lui, Jodorowsky. Et donc le DAO a réuni 3 millions de dollars pour racheter ce livre assez rare, avec l'intention d'en faire notamment une série animée qui serait inspirée du livre. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que acheter le livre ne veut pas dire acheter les droits de la propriété intellectuelle de Dune ou du contenu du livre lui-même. Ils ont juste acheté un livre.
Ça aurait dû être spécifié, quoi. Non.
C'est exactement. Mais c'est vraiment. Je sais pas. Moi, je trouve ça rigolo. Et comment dire, c'est sweet, quoi. C'est mignon. C'est presque mignon. C'est genre, oh, vous pensiez que vous alliez
sweet,
pouvoir faire.
Sweet est cher quand même. Hein. 3 millions de dollars l'erreur.
Tu sais, je pense que c'est des gens qui. C'est plein de gens qui ont mis 2 dollars. Bon, j'exagère, ou 100 dollars, ou ce que c'est. Ils ont quand même eu leur livre. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont leur
intention. On parie combien que ce livre sera revendu une fortune dans quelques années.
Je ne pense pas. Mais...
Ah, non, moi, je ne parierais pas parce que maintenant, il a une histoire, ce livre.
C'est pas faux, ouais.
C'est vrai.
Et ça posera des questions sur la manière dont l'argent sera réparti plus tard. Mais je trouve ça quand même mignon, quoi.
Il y a une blockchain derrière, il sera réparti. Hein,
il sera, oui, bien sûr. Mais bon, bref, voilà, c'est l'un des rares exemplaires du. C'est un petit peu le, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, pas les livres d'inspiration, pitchboard, non. Quelque chose board, inspiration board.
Mood board.
Mood board, voilà, c'est le mood board de Dune de Jodorowsky. C'est un peu ça.
Et surtout que ce n'est pas le seul exemplaire, comme tu l'as dit, c'est une des rares copies. Il y en a une dizaine, a priori, de ce qu'ils disent.
Mmh. Ouais.
Après, bon. S'ils peuvent les compter, quoi.
Vous rigolerez
moi,
moins.
Je regarde ça avec un œil.
Vous rigolerez moins quand Dune sera redevenu hyper populaire avec la suite de films de Villeneuve, quand il en aura fait 10 et que ce livre deviendra l'une des rares versions différentes possibles de Dune et que ça sera comme le MCU, mais en plus cher et qu'ils le revendront à 3 milliards. Là, vous rigolez.
C'est le livre de Dune le plus connu maintenant.
Voilà.
T'as vu le commentaire de Captain Stupid ? Moi, j'ai acheté une BD Star Wars il y a 2 ans et Disney n'a pas voulu que je fasse une trilogie reboot.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, leur truc. C'est tellement genre, oh, Bon, on tape. Là, franchement, sur ce coup, je me sens un tout petit peu coupable de taper encore sur les crypto bros parce que autant souvent il y a de quoi, autant là, c'est un peu. Comment dire, taper un cheval mort.
Là, c'est facile, ouais.
C'est un peu facile.
Ouais, ils vont en avoir plein des histoires marrantes comme ça. Mais bon, ça fait rigoler, c'est cool.
Ça fait rigoler. Voilà, un petit peu de légèreté pour finir cette émission à laquelle je vous remercie très chaleureusement d'avoir participé tous les deux. C'était un moment privilégié, unique, que je voudrais revendre en NFT, mais je devrais vous reverser des commissions pour ça. Et ça, oui, il en est hors de question. Donc, pas de NFT de ce moment qu'on a partagé. Il sera accessible à tous librement, sans DAO et sans crypto. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent vous retrouver si vous voulez leur vendre des NFT ? Par ailleurs, ce que vous pouvez faire, évidemment, Marion, où trouve-t-on tes NFT ?
Alors, sans vendre de NFT, hein, parce que c'est un peu trop avant-gardiste pour moi. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design ou tous les mardis matins sur la chaîne Twitch Naotech pour débriefer de l'actu tech à 8h.
Merci Marion. Ulrich, où te retrouve-t-on ?
Moi, principalement sur Twitter. Je passe ma journée à gérer un groupe média plutôt modeste, mais qui prend beaucoup de temps. Et de temps en temps, j'écris un peu sur Frandroid par plaisir. Mais sinon, je traîne sur Twitter. J'aime bien passer des heures à ne rien faire.
C'est une bonne définition de Twitter. Donc, on mettra
c'est pas vrai,
le lien.
C'est pas vrai. Mais...
on mettra
c'est
le lien.
Que j'ai ma main droite avec le téléphone et qui est sur Twitter et que je fais d'autres choses avec... à côté.
On va pas te poser plus de questions sur ce sujet. Seiji,
toi-même tu sais.
Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir le documentaire Jodorowsky's Dune. Peut-être un documentaire. Si tu peux nous dire où il est disponible, sans doute sur Netflix comme partout, ou YouTube comme tout le reste. Et Laurent Last7 qui dit les NFT c'est moins bête que les clopes, un plaisir éphémère. Et il y a plein de gens, et on n'emmerde pas les gens qui fument des clopes. Bon, en même temps, peut-être que si, on les emmerde un peu, mais pour d'autres raisons. Je sais pas, je trouve ça intéressant. On faut bien avoir un vice, hein, et les NFT, pourquoi pas, peut-être. Si vous voulez participer à l'émission en direct dans la chatroom sur Steam, non, pas sur Steam, sur Twitch, vous pouvez tous les mardis à midi nous rejoindre twitch.tv/notepatrick. Et si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com/rdvtech, c'est très simple à retenir, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend montre en main 2 minutes et vous deviendrez un fier patriote du rendez-vous tech. Et non seulement vous aurez cette fierté immense de contribuer à l'émission, à l'existence de l'émission, mais vous aurez aussi plein de bonus sympathiques comme par exemple l'after show qui arrive dans un instant où je vais vous parler un petit peu de mes réflexions sur le fait d'être un élu, une personnalité politique à l'heure de l'Internet. On se fera ce petit bonus pour les patriotes dans le flux privé tout de suite. Et du coup, ceux qui ne sont pas patriotes, je vous dis au revoir pour cette semaine. Je vous fais de grosses, grosses bises. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter, si vous souhaitez avoir les liens les plus intéressants de ma veille et certains qu'on évoque dans cette émission. Et on se donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous jeu et la semaine prochaine pour la suite du rendez-vous tech. Je vous fais de grosses bises à tous et toutes et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.